BW. Droits et libertés.
Je vais vous demander cette semaine un petit effort d'imagination. Représentez-vous un pays, quelque part dans le monde, qui serait dirigé d'une main de fer par un dictateur. Ce dictateur aurait instauré la loi martiale et en profiterait pour éliminer, emprisonner, torturer par milliers, voire dizaines de milliers, ses opposants. Renversé par une révolte populaire, le dictateur serait contraint à l'exil. Mais 25 ans plus tard, après la mort de l'autocrate, son fils serait élu président de la République. Et bien en fait, c'est un petit peu ce qui s'est passé aux Philippines avec Ferdinand Marcos Jr., alias Bongbong. On en parle avec notre invité de cette semaine, François-Xavier Bonnet. Il est géographe et chercheur associé à l'IRASEC aux Philippines, basé à Manille. Sandrine Blanchard au micro. Bonjour tout le monde. François-Xavier Bonnet, bonjour.
Bonjour madame.
Vous êtes géographe, chercheur associé à l'IRASEC à Manille, aux Philippines, et vous connaissez bien donc la situation politique qui prévaut dans ce pays. Le grand événement de ces derniers jours, c'est l'élection de Ferdinand Marcos Jr. Est-ce que vous pouvez tout d'abord nous dire qui est cet homme, ou plutôt d'abord sur quel programme politique il a été élu?
Marcos Junior, qui est surnommé Bongbong, est le fils de l'ancien dictateur Ferdinand Marcos Senior, qui a été le président des Philippines élu de 1965 à 1969-70, et qui ensuite, face à des différentes rébellions communistes et musulmanes, a imposé la loi martiale sur son pays à partir de 1972. Et de 1972 jusqu'à 1986, il a régné en fait en dictateur. Une dictature qui réunissait tous les membres de sa famille, sa femme, ses enfants, dont le Bongbong Marcos, qui était tout jeune à cette époque-ci. Ensuite, en 1986, la famille a été balayée par une révolution pacifique de la population. Et en fait, la famille a été emmené par les Américains sur Hawaï. Sur l'île d'Hawaï, le président Marcos est décédé et la famille a pu revenir aux Philippines après, à partir de 1991.
Vous l'avez dit, la famille a été contrainte à l'exil après le renversement de Ferdinand Marcos père. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot des raisons de l'insurrection qu'il a renversée? Il a laissé beaucoup de victimes derrière lui.
Il y a eu des milliers de personnes qui ont été incarcérées, qui sont des prisonniers politiques, des milliers de personnes dont on ne sait pas où elles sont, elles ont totalement disparu. Et des personnes qui ont été torturées, il y a eu quand même des exactions très, très importantes.
Et par ailleurs, à cette époque, la famille Marcos détourne les biens publics.
On évalue à peu près 10 milliards de dollars la somme qui a été détournée par le clan Marcos, à la fois la famille, mais aussi ce qu'on appelle les cronies, c'est-à-dire tous les hommes d'affaires qui tournent autour de la famille. Et à la fin de la période Marcos, en fait, les victimes des droits de l'homme se sont mis ensemble pour attaquer en justice aux États-Unis et pour être indemnisés. Sur les 10 milliards, l'agence qui est chargée en fait, de récupérer ces milliards a réussi à récupérer à peu près la moitié, dont 300 millions qui devaient indemniser les victimes. En fait. Mais en fait, la famille Marcos n'a pas indemnisé ces personnes. Et il y a eu en 2011 un jugement aux États-Unis qui dit à la famille Marcos que si elle mettait les pieds aux États-Unis, elle se ferait arrêter. Ce qui en fait implique que si Bongbong Marcos devient le président des Philippines, il ne pourra pas mettre les pieds aux États-Unis.
Si Ferdinand Marcos Jr. est conforté dans ses fonctions de président de la République, toutes les exactions qui ont été commises durant la loi martiale et la dictature de son père ne seront ni poursuivies en justice, ni les victimes dédommagées.
Depuis qu'il est en campagne, il a très peu parlé aux médias classiques, conventionnels. Par contre, lors d'un entretien à CNN Philippines, La journaliste lui a posé la question, que deviendra en fait l'agence qui est chargée de recouvrer les fonds que son père et que sa famille avaient volés.
Oui, tous les biens mal acquis. Oui.
Exactement, tous les biens mal acquis. Et il a expliqué que cette agence-là n'allait pas disparaître. Il n'allait pas non plus faire disparaître les archives. Mais par contre, il allait étendre la fonction de cette agence pour la transformer en une agence générale de lutte contre la corruption. Et donc, on a bien senti à ce moment-là qu'il allait peut-être éventuellement viser les familles qui étaient rivales de la famille Marcos.
Et comment est-ce que vous expliquez-vous alors qu'un tel homme avec un tel passé familial recueille autant de voix et de soutien et finisse par être élu président ?
C'est une grande question. L'opposition commence à parler de triche. Et ça, on va le voir dans les semaines qui vont venir. Ça va prendre encore à peu près un mois pour avoir les résultats définitifs et officiels. Mais pour le reste, en fait, depuis qu'il a perdu en 2016, il a investi complètement les réseaux sociaux et notamment TikTok. Donc, il vise une population jeune des 18-25 ans.
Et donc, des gens qui n'ont pas connu la dictature.
Exactement. Ils ont fait intervenir donc des vlogueurs qui influencent énormément les jeunes pour expliquer que toutes les critiques contre la famille Marcos, c'était des fake news. C'est qu'en fait, la période de la loi martiale, c'était une période au contraire qui avait été excellente d'un point de vue économique, l'âge d'or en fait des Philippines. On pense qu'ils ont aussi des fermes de trolls importantes qui ont vraiment influencé pendant 6 ans la population. Quand on regarde les sondages, parce que là, aux Philippines, on divise en classes sociales, A, B, C, D, A étant la plus riche et E étant la plus défavorisée. Et en fait, on s'aperçoit que sur toutes ces classes sociales, il avait la majorité.
Alors, vous me tendez une belle perche pour parler de la famille, l'autre grande famille Duterte cette fois, donc celle du président sortant, Rodrigo Duterte. La fille de ce président, Sarah, va être vice-présidente du nouveau président élu. Donc, la famille Duterte ne déserte pas le pouvoir. Eux aussi, ils ont une réputation sulfureuse, j'allais dire, en tout cas brutale.
Oui, alors le père, parce que Sarah Duterte, elle a une réputation d'être une femme forte, mais elle n'est pas impliquée dans des meurtres ou des choses comme ça, c'est vraiment son père. En fait, elle est souvent en bisbise avec son père. Et même, par exemple, le président Duterte est un admirateur du président Marcos, mais par contre n'aime pas Bongbong Marcos. Et au tout début, il avait expliqué à la population, à la télévision, que Bongbong Marcos était un leader faible et en plus un consommateur de cocaïne. Et en fait, il n'a pas vraiment accepté que sa fille entre en politique nationale sur un ticket avec Bongbong Marcos.
Rodrigo Duterte a été célèbre dans le monde entier pour ses campagnes de lutte contre les cartels de la drogue et les guérillas qu'il a menées d'une main de fer et avec donc de nombreuses violations des droits humains aussi.
Oui, en fait, sa guerre contre la drogue n'a pas vraiment ciblé les cartels, c'est ça.
C'était plus des petits consommateurs ou petits revendeurs.
Oui, exactement. Donc, c'est plutôt la personne qui revend la drogue au coin de la rue qui était la cible. Officiellement, il y a, d'après la police, autour de 6500 personnes qui ont été tuées sur les 6 ans. Mais d'après en fait, Amnesty International ou Human Rights Watch, ces organisations et les organisations locales aussi évaluent à plus de 30 000 morts. La guerre contre la drogue, et autour de 300 000 personnes qui ont été arrêtées par la police et qui, en fait, sont en prison. Cette guerre était sanglante. Les candidats Marcos et Duterte ont, eux, dit qu'ils allaient continuer la guerre contre la drogue, mais d'une autre manière, c'est-à-dire plutôt en développant la partie réhabilitation, plutôt que d'attaquer les gens, enfin, de faire une guerre réelle, comme le père a pu la mener.
Est-ce qu'on en sait davantage sur leur ligne politique, sur leur projet vraiment pour la population philippine ?
C'est une très bonne question parce qu'en fait, pendant toute leur campagne, le leitmotiv c'était harmonie, discipline, il faut l'unité du pays. C'était vraiment ça qui était répété essentiellement. Et alors, sur leur programme politique, on n'a pas grand-chose. En dehors du fait que le candidat Marcos s'inscrit dans la lignée du président Duterte pour tout ce qui est construction d'infrastructures. Mais pour le reste, on n'a pas énormément d'indices sur ce qu'ils veulent vraiment faire.
Et l'opposition dans tout ça, qu'est-ce qu'elle incarne et qui est-ce qu'elle regroupe ?
Ben, l'opposition, en fait, notamment au Sénat, a perdu énormément de candidats. C'est essentiellement des personnes qui sont pro-Duterte ou pro-Marcos qui ont gagné. Ça fonctionne par clan, des clans familiaux. Et donc, les clans sont très mobiles. Ils n'ont pas d'idéologie du style droite-gauche. Et donc, ils vont en fonction de l'homme fort. C'est les intérêts des clans, c'est les intérêts personnels qui comptent plus que le reste.
Et qu'en est-il de l'appareil judiciaire ? Est-ce qu'il est assez indépendant pour pouvoir travailler en toute quiétude ?
Maintenant, la plupart des commissaires de la Cour suprême ont été nommés par Duterte. Et donc, le risque, c'est que la Cour suprême, en fait, essaie de bloquer toutes les demandes, par exemple, de l'intervention de la Cour pénale internationale, qui aimerait bien faire des enquêtes aux Philippines dans le cadre de la guerre contre la drogue. Et le risque, c'est qu'en fait, la Cour suprême refuse le droit d'entrée. Pareil aussi, la Commission des droits de l'homme. Jusqu'à présent, le commissaire en chef était du côté de l'opposition. Et il est décédé du Covid. Et donc, c'est le président Duterte qui va nommer le prochain commissaire de la Commission des droits de l'homme.
François-Xavier Bonnet, un grand merci pour toutes ces explications sur ce pays qu'on connaît mal.
Merci beaucoup.
Au revoir.
C'est la fin de ce magazine. Merci encore à François-Xavier Bonnet, chercheur associé à l'IRASEC aux Philippines, pour ses éclairages sur ce qui est en train de se passer dans ce pays. Si vous souhaitez réécouter Droits et Libertés ou podcaster cette émission, rendez-vous sur notre site internet dw.com/français à la rubrique « Nos podcasts ». Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là, ne lâchez rien.